Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Durant l'année 1967 et jusqu'à l'été 1968, le Jimi Hendrix Experience va enregistrer trois albums qui vont tous rencontrer le succès. Electric Lady Land est le troisième et dernier album studio du Jimi Hendrix Experience, ainsi que le dernier album studio sorti du vivant d'Hendrix, avant sa mort en septembre 1970. Sorti par Reprise Records en Amérique du Nord en octobre 1968 et par Track Records au Royaume-Uni 9 jours plus tard, le double album sera le seul disque du groupe produit par Jimi Hendrix. À la mi-novembre, il s'était classé numéro 1 aux États-Unis, où il a passé deux semaines à la première place. Electric Ladyland était la sortie la plus réussie commercialement de l'expérience et leur seul album qui atteindra la première place. Il a culminé à la sixième place au Royaume-Uni, où il y a passé 12 semaines dans le chart. The Experience a commencé à enregistrer Electric Ladyland dans plusieurs studios aux États-Unis et au Royaume-Uni entre juillet 1967 et janvier 1968. L'enregistrement a repris en avril dans les studios Record Plant nouvellement ouverts à New York avec Chet Chandler comme producteur et les ingénieurs du son Eddie Kramer et Gary Gulken, propriétaires du studio. Bien que l'album ait confondu les critiques en 1968, il a depuis été considéré comme le meilleur travail de Jimi Hendrix et l'un des plus grands disques de rock de tous les temps. Electric Ladyland est présent sur de nombreuses listes d'albums de référence, dont celle du magazine Q et sa liste 2003 des 100 plus grands albums, ainsi que dans la liste du magazine Rolling Stone, paru en 2020, parmi les 500 plus grands albums de tous les temps, sur lequel il a été classé à la 53e place. C'est donc un monument du rock dont on va parler aujourd'hui. Selon le journaliste musical David Stubbs, Electric Ladyland est sans aucun doute un album de rock, même si le rock est sur le point d'évoluer vers autre chose. John Robinson du magazine Uncut a déclaré que sa musique réconcilie le pop psychédélique des premiers enregistrements d'Hendrix avec le funk agressif qu'il va explorer sur son album posthume de 1970, Band of Gypsies. Au cours de son enregistrement, Eddie Kramer a expérimenté des techniques de studio innovantes telles que le backmasking, l'effet de chorus, l'écho et le flanging. C'est ce qui laisse cette impression de son psychédélique et de funk sur l'album, décrit par les critiques. La première chanson proposée ici est Crossing Traffic, une chanson écrite par Jimi Hendrix. Elle est sortie en single après All Along the Watchtower et a atteint la 52e place sur l'US Billboard Hot 100. Et la 37e sur les charts au Royaume-Uni. Contrairement à la plupart des morceaux de l'album, cet enregistrement présente la configuration complète de l'expérience, avec Jimi Hendrix, bien sûr, Noel Rendig à la basse et Mitch Mitchell à la batterie. Jimi Hendrix joue également avec un kazoo de fortune fait avec un peigne et du papier de soie, en tandem avec sa guitare solo, et les chœurs sont assurés par Noel Rendig et Dave Mason. Avec son riff hard rock, la chanson est un mélange de blues et d'acid rock, déjà en devenir. Billboard a décrit le single comme un changement palpitant qui fera une puissante brèche dans les charts. Les paroles expriment une vision surréaliste, mêlant un trafic routier dense et l'imprudence d'une groupie ou d'une amie du narrateur qui se jette devant lui alors qu'il conduit vite, car il est pressé. C'était Crosstown Traffic par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Electric Ladyland est un double album dont les deux premières faces restent complexes malgré les années. Et on en vient donc à Gypsy Eyes, qui est une chanson écrite par Jimi Hendrix. Par la suite, elle est sortie en tant que face B, justement, du single Crosstown Traffic. Il s'agit d'un blues rock psychédélique basé sur un ancien standard du blues, sur lequel Jimi Hendrix crée une grande synergie entre sa voix et le riff de la guitare principale. En fait, la chanson est chargée d'une collection de riffs, et Jimi Hendrix les a compilés soigneusement sur une seule chanson. Utilisant le studio d'enregistrement comme un instrument, la technique d'overdub, si vous voulez, de rajout, de Hendrix, atteint un sommet ici. Alors que les multiples parties de guitare tourbillonnent les unes autour des autres de manière spectaculaire. De plus, les effets de flanger phasing, c'est-à-dire de décalage dans le temps, font également partie de l'arrangement et de la chanson elle-même. Richard Middleton note que les licks dans la musique rock sont souvent utilisés par une technique de mise en forme et de variation. Ici, Gypsy Eyes est composé de variantes fondées sur 5 idées de base issues d'autres enregistrements du même style. A noter que ces effets concernent la batterie avec une sorte de frottement et la basse qui joue aussi plusieurs riffs ajoutés les uns aux autres. Donc au total, un morceau en apparence complexe. Et on parle quand même de blues, car d'après des amis musiciens, les notes de la gamme pentatonique sont utilisées en permanence. Pour moi, à l'époque, Jimmy cherchait une nouvelle voix, un nouveau style musical, sans renier sa passion du blues. We'll be right back.
down this road searching for your love and my soul too.
Gypsy Eyes, les yeux de la gitane, par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Il y a très longtemps, j'avais lu une interview d'Hendrix qui disait que Burning of the Midnight Lamp, l'allumage de la lampe de minuit, est une sorte de blues moderne en 1968. Les paroles parlent d'un homme dans une petite maison ancienne au milieu d'un désert où il allume cette fameuse lampe de minuit. C'est bien sûr une métaphore qui parle de la solitude et de la frustration due à l'éloignement, avec pourtant une petite lueur en signe d'espoir. Musicalement, comme sur le titre précédent, Jimmy essaie des choses en combinant les sons des instruments, ajoutant des effets, des variations, ainsi que sur les chœurs, tout en respectant la trame de la composition originelle. Écrite par Jimi Hendrix, elle est d'inspiration rhythm and blues, surtout quand on entend les chœurs. Le travail sur Burning of the Midnight Lamp a commencé en mai 1967 durant les sessions de Axis Buzz and Love. Le groupe a d'abord enregistré 4 démos dépouillées de tout effet de la chanson aux Olympic Sound Studios de Londres. La conception fut lente et cette longue mise au point de la chanson aurait laissé Jimi Hendrix frustré et déprimé alors que le groupe entamait une nouvelle série de concerts en Europe. Jimmy est parvenu à terminer à écrire cette chanson lors d'un voyage en avion entre les dates de tournée à Los Angeles et à New York, début juillet 1968. L'enregistrement a repris le 6 juillet au Mayfair Studio de New York. 30 prises d'enregistrement furent réalisées. Le jour suivant, la chanson a été complétée par des overtubes ce jour et le mixage final fut réalisé le 20 juillet. La production était dirigée par Chet Chandler, encore là à cette époque. La chanson est sortie en août 67 en tant que 4e single au Royaume-Uni. Aux États-Unis, elle est sortie en phase B de All Along the Watchtower. And C'était Burning of the Midnight Lamp par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. '83 en bon français, qui est suivi d'un sous-titre, Mamen Ashutun Toby, un triton je devrais être, est une chanson écrite et produite par Jimi Hendrix. Cette chanson met en vedette le flûtiste Chris Wood du groupe Traffic. Elle dure en fait plus de 13 minutes. C'est le deuxième morceau le plus long publié par le groupe après Voodoo Child, dont je vais reparler. Jimi Hendrix a d'abord enregistré une démo privée de cette chanson dans un appartement de New York en mars 1968. Il s'agit d'une performance solo avec guitare et voix simplement. Le premier enregistrement de la chanson eut lieu au Sound Center Studio de New York le 13 mars 1968. Le 22 avril 1968, toujours, la piste d'accompagnement a été achevée au Record Plant Studio de New York. Des retouches supplémentaires ont été ajoutées et la chanson a été achevée et mixée toujours au Record Plant en juin de la même année. Pour la version publiée, Jimi Hendrix joue de toutes les guitares. Il fait les voix, les percussions et joue de la basse. Noel Redding était absent à cette époque, avec Mitch Mitchell à la batterie et donc Chris Wood à la flûte traversière. Alors il faisait partie du groupe Traffic. Mais n'attendez pas un son de flûte habituel. En effet, on entend des parties de guitare et de flûte jouées en fait à l'envers. Autre exemple, les sons de mouette ont été produits en manipulant des effets de retour sur le microphone. Et un flexatone simule un son de cloche. À cette époque, Chet Chandler avait démissionné en tant que producteur de Jimi Hendrix. Il ne supportait plus la foule des invités qui défilaient dans le studio. Aussi, la production fut reprise par Jimi Hendrix, tandis que l'ingénierie fut gérée par Eddie Kramer et le propriétaire du studio, Gary Gelgren. Je me suis permis de ne vous passer qu'un extrait de 5 minutes, car la suite est plus confuse, et si vous avez envie d'écouter le morceau en entier, surtout d'entendre la flûte, sachez que c'est révélateur de cette recherche sonore permanente qui, pour moi, caractérise cet album.
Such a mess. Every inch of her is days of fighting this giant pencil and lipstick tube shaped flames continue to rain and cause screaming pain and the arctic stains from silver blue to bloody red as our feet find the sand and the sea is straight ahead. That's what they say. That's why they coming with this thing. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God and the grace of the king. Of the king. So my darling and I make love in the sand to salute the last moment ever on dry land. Our machine has done its work, played its part well, without a scratch on a bottle that may bid it farewell. Starfish and giant flumes greet us with a smile. Before our heads go under, we take a last look at killing noise.
What the other style?
C'était un extrait de 1983, A Merman I Shoot 'Em To Be, par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. La recherche sonore, très décousue, sinon parfois déroutante, montre combien les deux musiciens qui accompagnent Jimi Hendrix sont à rude épreuve. John Graham Mitchell, connu sous le nom de Mitch Mitchell, est né le 9 juillet 1946 à Ealing dans le Middlesex. Avant d'être batteur, il fut acteur dans des programmes de TV britanniques pour la jeunesse, ainsi que dans des films. Mitch est devenu musicien en travaillant dans le magasin de batterie de Jim Marshall, l'inventeur des amplis du même nom. Ses principales influences étaient Elvin Jones et Tony Williams. Il a débuté vraiment en jouant avec Geordie Femme et ses Blues Flames. Son style jazzy a toujours intéressé ses admirateurs et pour entrer dans l'expérience après une audition, tout se passa au tirage au sort contre Ainsley Dunbar. Le batteur jazzy gagna devant le batteur de blues. Après l'expérience, il est resté un proche ami de Jimmy Puis, après sa disparition, il a joué dans des groupes oscillant entre rock et jazz. Il est décédé le 12 novembre 2008, soit 5 jours après la fin d'une tournée hommage à Jimi Hendrix. Il est mort de cause naturelle, même si sa santé était devenue mauvaise des suites de son ancienne addiction à l'alcool. De l'autre côté, Noël Redding est né le 25 décembre 1945, le jour de Noël, à l'hôpital Royal Victoria de Folkestone, dans le Kent. Enfant, il jouait du violon, de la mandoline et de la guitare. Il a découvert et ne s'est révélé véritablement un grand bassiste que lorsqu'il a rejoint l'expérience, devenant une référence pour cet instrument. Il a écrit d'ailleurs au passage quelques-unes des chansons du groupe. Après son départ de l'expérience, il a joué dans le groupe Fat Mattress, puis dans Road, un power trio très hard rock. Et bien qu'il n'ait jamais atteint le même succès qu'avec Jimi Hendrix, il reste un élément indissociable du son de l'expérience. Son talent de bassiste est indéniable, mais son fort caractère aussi. Et Jimi n'a pas toujours été conscient des blessures morales pris par Noël quand il a invité d'autres bassistes pour ses sessions. Noël Redding est mort à son domicile de Clonakilty le 11 mai 2003 d'une hémorragie interne. Voici Still Raining, Still Dreaming, Encore il pleut, encore rêvé, où les effets de Wawa notamment ne manquent pas.
Getting up tight, just let it groove its own way. Let it drain your worries away. Lay back and groove on a rainy day. Lay back and dream. We'll be right back.
C'était Still Raining, Still Dreaming par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Johnny Allen Hendrix est né le 27 novembre 1942 à Seattle, État de Washington. Il était descendant d'esclaves afro-américains et d'enfants naturels. Son père ne put voir son fils qu'au bout de 4 ans, en bénéficiant enfin d'une première permission de l'armée. Nul doute que son enfance misérable a pesé dans l'édification du musicien. On ne le soulignera jamais assez, même si l'apogée de sa carrière musicale n'a duré que 4 courtes années, il restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands guitaristes électriques du monde. Son influence sur la guitare et la musique est devenue plus grande et plus répandue encore que ce qu'elle fut de son vivant. Il demeure vraiment une légende et il manquera au monde de la musique pour toujours. Sa carrière dans la musique a commencé lentement et à contre-cœur, mais elle s'est terminée par le fait qu'il était le meilleur dans son genre. Il jouait de la guitare comme si c'était une simple extension de son corps. Un ami m'a dit un jour que son secret résidait dans ses doigts longs et effilés qui lui permettaient de tout faire sur une guitare. Jimi Hendrix s'est inspiré du rock'n'roll américain, mais surtout du blues électrique. Il préférait les amplificateurs saturés avec un volume et un gain élevé et a contribué à populariser les sons auparavant indésirables causés par le retour d'amplificateurs de guitare, les fameux effets Larsen. Il a également été l'un des premiers guitaristes à faire un usage intensif des effets modifiant le ton, tels que la distorsion fuzz, Octavia, wah-wah et encore Univibe. Il a été le premier musicien à utiliser des effets de phase stéréophoniques dans les enregistrements. Beaucoup pensent que s'il avait survécu, il aurait joué à un genre de jazz rock avec ce qu'il faut de blues quand même. Jimi Hendrix est décédé à l'âge de 27 ans, le 18 septembre 1970, d'une cause pas très claire, entre l'excès de médicaments et d'alcool. Voici House Burning Down, la maison qui brûle, où Jimmy chante des paroles typiques d'un blues, avec une musique toujours compilée de sons divers et variés, la guitare censée exprimer la crainte du feu, telle que pourraient le faire des témoins d'un incendie.
Subject and said, oh, well, I think it might snow some. So I left him sipping his tea, and I jumped in my chair and run off to see just why and who could it be this time. Sisters and brothers, daddy's mother, stood standing around crying. When I reached the scene, the flames were making a ghostly whine. So I stood on my horse's back, and I screamed without a breath. I say, oh, baby, why did you burn your brother's house down?
disgusting, so we paint red through the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to learn instead of burn, hear what I say. So I burned and rolled away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A giant boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away.
C'était House Burning Down par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. All Along the Watchtower, tout autour de la tour de garde, est une chanson écrite et enregistrée par Bob Dylan qui fait partie de son album de 1967, John Wesley Harding. Reprise par de nombreux artistes, All Along the Watchtower acquit sa notoriété avec cette version de Jimi Hendrix. Sortie 6 mois après celle de Dylan, elle est devenue un single du top 20 en 1968. Elle a reçu depuis un Grammy Award en 2001 et a été classée 40e dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps, de la liste du magazine Rolling Stone, et surtout dans sa version 2021. C'est donc un des titres les mieux classés dans les charts du vivant de Jimi Hendrix. Pour moi, c'est une de ses plus belles chansons, avec Purple Haze, Hey Joe, Red House, Voodoo Child, Sly Return, et d'autres encore comme Stone Free ou Little Wing, et bien d'autres. L'expérience a commencé à enregistrer leur version en janvier 1968 aux Olympic Studios de Londres. Selon l'ingénieur du son, Andy Jones, Jimi Hendrix avait reçu une cassette de l'enregistrement de Dylan grâce au publiciste Michael Goshten et l'a fait écouter au groupe. Et selon un autre ingénieur du son, Eddie Kramer, Jimmy a fait un grand nombre de prises dès le premier jour, criant des changements d'accords à Dave Mason qui se trouvait là pour la session et jouait sur une guitare 12 cordes. Au milieu de la session, Noel Redding a craqué, il en a eu assez et a quitté les studios. Dave Mason a pris le relais à la basse et c'est même Jimmy qui joue la dernière partie de basse sur le morceau. Ryan Jones, qui était un ami de Jimi Hendrix, a joué sur différentes percussions. C'est lui par exemple qui joue le twack qu'on entend à la fin de chaque mesure de l'intro sur un vibra slap. Brian a même enregistré une partie piano qui sera plus tard mixée avec les percussions. Eddie Kramer et Chet Chandler ont mixé la première version d'All Along the Watchtower en fin de janvier 1968. Mais Jimi Hendrix ne fut pas satisfait du résultat et a continué à réenregistrer et à superposer des parties de guitare durant tout l'été au studio Record Plant à New York. Bref, ce fut une suite de prises où un détail remplaçait un autre, la capacité de mixage étant limitée. Bob Dylan a dit que cette version d'Hendrix l'avait vraiment bouleversé. En fait, Bob Dylan considéra qu'elle contenait des tas d'idées sonores qu'il regrettait vraiment de ne pas avoir eues. Mmh.
must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
C'était All Along the Watchtower par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Au départ, Voodoo Child est une chanson écrite par Jimi Hendrix qui était basée sur la chanson de blues de Muddy Waters, Rolling Stone, mais avec des paroles et une musique originale. Durant moins de 15 minutes, c'est le plus long d'ailleurs enregistrement en studio de Jimi Hendrix qui existe sur disque, et comprend des musiciens supplémentaires dans ce qui a été décrit comme une jam en studio. Voodoo Child a été enregistré au Record Plant à New York après une jam session de fin de soirée entre Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, l'organiste Steve Winwood et le bassiste Jack Cassady du Jefferson Airplane. La chanson est devenue la base de Voodoo Child Sly Return, enregistrée par l'expérience le lendemain et l'une des chansons les plus connues d'Hendrix. A noter que Child est une forme de jeu de mots phonétique à partir de Child qui signifie enfant, avec un E et non pas un D comme dans le nom normal. Au Royaume-Uni, le titre du single paru en 1970 devint Voodoo Child, Sly Return, ce qui a semé la confusion entre les deux chansons. la longue et la courte. Voodoo Child est une évolution de Catfish Blues, une chanson qu'Hendrix interprétait régulièrement sur scène en 1967 et au début de 1968. C'est un hommage à Muddy Waters, composé d'un mélange de couplets basé sur des titres de Muddy, dont Rolling Stone, Steal a Fool et Rollin' and Tumblin'. En avril 1968, Jimi Hendrix a enregistré un certain nombre de démos en solo, y compris un premier Voodoo Child qu'il avait développé durant une certaine période. Et Voodoo Child Sly Return, donc le single, est au fond une version résumée de Voodoo Child longue durée. Elle contient au fond une improvisation à la guitare, la voix de Jimi Hendrix, la basse de Noel Redding et la batterie de Mitch Mitchell. La chanson est l'une des plus connues de Jimi Hendrix et une des plus jouées jusqu'à la fin de sa vie. Cette version raccourcie fut créée lors du tournage d'un court documentaire réalisé par la télévision ABC. Les caméras filmaient et le groupe commença à jouer le morceau de façon impromptue. Le résultat est tout simplement fabuleux. Symbolisme et références vaudou résonnent à travers le country blues et à travers le country blues électrique urbanisé de l'école de Chicago. Et dans le cas d'Hendrix, il s'agit de pure métaphore, n'étant pas un initié du vaudou au sens formel du terme. We'll be right back. c'était Voodoo Child Sly Return par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Tout comme l'album Are You Experiences, Electric Ladyland était révolutionnaire, amenant le public à découvrir un rock psychédélique enraciné dans le blues. La plupart des critiques conviennent que l'album reste la réalisation la plus complète des ambitions de grande envergure musicale voulues par Jimmy. Sans parler du scandale soulevé par la pochette montrant 19 jeunes femmes dénudées, sans l'approbation du groupe qui ne fut pas suivi dans son projet de pochette initial. Une nouvelle édition est parue pour le 50e anniversaire d'Electric Ladyland. Elle a été publiée en novembre 2018. Elle présente les couvertures initialement prévues par Jimi Hendrix et est disponible sous forme de coffret. Riche de démos, de concerts et de making-of avec Chet Chandler, qui abandonna la production de l'album, épuisé par le perfectionnisme d'Hendrix. Mais on y voit aussi Mitch Mitchell, Noel Redding et Eddie Kramer, l'ingénieur du son. C'est surtout un témoignage de l'immense travail qui se déroulait dans les studios sous la férule de Jimi Hendrix pour réaliser cet album. Quand on pense que Jimi consommait tabac et drogue de façon soutenue, on se demande où il trouvait l'énergie de composer ses chansons, créer ses sons, ses effets, ses textes, etc. C'était bien un extraterrestre, comme cela a souvent été dit. Il reste cet album, ce double album, qui représente malheureusement sa dernière véritable œuvre au sein de l'expérience. Groupe mythique, pas vraiment remplacé depuis, de mon point de vue. La semaine prochaine, je vous parlerai des Trugs, groupe connu pour annoncer le rock garage et le punk, sans exprimer autant de folie sur scène ou ailleurs, juste pour le son. Mais d'ici là, ben roulez blues.